nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Evelyne Chudreau, plusieurs académiciens de l'Académie des sciences travaillent sur la génétique. Vos analyses nous accompagnent tout au long de cette journée spéciale Femmes en Académie. En tant que sociologue, observatrice de la famille et de ses évolutions, de la femme et de la famille, comment percevez-vous les avancées de la connaissance génétique? Les découvertes de l'ADN ont-elles modifié la famille?
Elles l'ont beaucoup modifié, et si vous permettez, je dirais, ça n'est pas fini. Ça commence seulement. Et c'était totalement inattendu. Je veux dire que, d'une part, les juristes, les auteurs du code civil, les magistrats qui l'appliquent, les juges aux affaires familiales, étaient très loin d'imaginer qu'un jour, on pourrait leur apporter une preuve à 100% que cet homme était le père d'un enfant. C'est une rupture complète avec, je ne sais pas si vous vous rappelez l'adage latin des juristes, « mater certissima », Pater, Saint-Père, Incertus. La mère est très certaine, le père toujours incertain.
Et maintenant, ce n'est plus le cas.
Donc, nous avons vécu dans des sociétés où le mariage avait été construit pour que sa pierre angulaire, le père, donc, soit absolument certifié par le mariage. En fait, parce qu'il était le mari, il était le père, et le mot patriarcat vous dit bien qu'il ne s'agit pas donc d'imposer la virilité, c'est pas du machisme, c'est de faire en sorte que le père soit sûr d'être le père de ses enfants. Alors là-dedans, quand est arrivée la preuve génétique, alors elle n'est pas arrivée tout de suite. D'abord, les juristes ont utilisé les groupes sanguins.
Oui.
Qui excluait la paternité. Bon, mais c'était pas une preuve absolue, puisque c'était celui-là ne peut pas être le père, mais enfin, c'était pas tout à fait absolu. Ensuite, il y a eu les plaquettes HLA qui ont encore précisé. Et là, on est arrivé à une précision assez importante, et les juges appelaient ça l'examen des sangs. Et c'était eux qui, à la demande en recherche de paternité ou en contestation de paternité, étaient ceux qui ordonnaient l'examen des sangs ou bien refusaient de l'ordonner. Donc, il reste les maîtres, et encore maintenant d'ailleurs, il reste les maîtres de la paternité. Et quand est arrivée l'application de l'ADN à la filiation, ça n'est qu'en 1991, parce que c'est en 1985 que un professeur de biologie anglais, Jeffreys, le professeur Jeffreys de l'université de Leicester, a découvert une technique qu'on a appelée après les empreintes génétiques. Et avec cette technique, il a donc réussi à couper avec des sortes de ciseaux biologiques une petite portion de l'ADN qui est unique chez chaque individu et qui permettait donc d'identifier parfaitement un individu, même après sa mort, même, etc. Ça a été utilisé d'abord en médecine légale.
Bien sûr.
Et ça a été accueilli par la médecine légale en France et par la police scientifique très facilement. Puis en 1991, Jeffreys l'a pour la première fois appliqué à la filiation. Et là, il a eu un succès fantastique, c'est-à-dire que l'université de Leicester et le laboratoire là ont été assaillis de demandes. Et de ce fait, en France, il y a eu une frilosité extrême des juristes qui ont immédiatement demandé, et c'est la loi de 1994 qui en a décidé, que d'une part, les analyses par empreintes génétiques ne puissent être faites que dans des laboratoires désignés, certifiés, etc., et très peu de laboratoires, que ces laboratoires n'avaient absolument pas le droit de recevoir une demande d'un particulier, c'est toujours ainsi, et que seul le juge, au cours d'un procès, pouvait indiquer ou pas indiquer de faire l'analyse génétique. Alors, nous en sommes toujours là en ce sens que aucun particulier ne peut aujourd'hui en France demander une analyse pour être sûr de sa paternité ou au contraire de sa non-paternité. En revanche, il le peut à travers Internet, simplement en faisant venir un petit kit de n'importe quel autre pays qui nous entoure, parce que ça se fait en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, ça se fait partout.
Encore une fois, nous sommes un tout petit peu à l'arrière.
Tout à fait à l'arrière. Mais disons que les juristes étaient très tentés d'y venir quand il y a eu l'affaire Montand. L'affaire Montand...
Yves Montand, le comédien, le chanteur.
Le chanteur et comédien, parce qu'il y avait une jeune fille qui avait, la loi à ce moment-là donnait seulement 2 ans après la majorité d'un enfant pour rechercher son père. Maintenant, c'est 10 ans. Mais à ce moment-là, c'était seulement 2 ans. Et donc, cette jeune fille de 18 ans, qui ressemblait beaucoup à Montand, a apporté toutes les preuves qu'avait sa mère, etc., etc. Le jugement est intervenu. Le juge a demandé à Yves Montand un test. Yves Montand a refusé le prélèvement. En justice anglo-saxonne, c'est considéré comme un aveu. Si un homme ne veut pas qu'on lui prélève une petite boule de cheveux, un peu de salive, c'est véritablement qu'il... Et donc, le juge a déclaré qu'elle était la fille de Montand. À ce moment-là, la famille, il y avait beaucoup d'argent en jeu, a demandé, parce que Montand venait de mourir... sans avoir voulu faire le prélèvement, qu'on ouvre la tombe, qu'on sorte les ossements, etc., et qu'on fasse une analyse post-mortem. Ce qui a été fait, et d'où il est apparu qu'il n'était pas le père de la jeune fille. Les juristes ont été tellement furieux que, du coup, ils n'ont même demandé qu'on ne puisse plus jamais ouvrir une tombe, sauf, enfin, voilà, il y a une loi assez ridicule à ce sujet. Mais... en même temps que cette fermeté qui montre beaucoup d'embarras, il y a la jurisprudence. Et dans la jurisprudence, c'est le père commence à avoir vraiment le droit d'établir sa paternité ou au contraire de le mari de contester un enfant qui lui est attribué. Disons que la jurisprudence fait le chemin d'une loi qui va arriver.
Elle finit par créer la loi.
Alors, ce qui est très intéressant maintenant dans les effets sur la famille, qui sont absolument considérables, c'est que jusqu'ici, la famille était comme institué autour du mariage, le mariage institution, et la famille s'ordonnait autour du mariage. À partir de la loi qui a été votée en 2004 et qui sera appliquée à partir de juillet 2006, c'est la filiation qui fait la famille. C'est-à-dire que le lien père-enfant et le lien mère-enfant sont plus importants que le lien entre les deux parents. Et donc, il peut y avoir établissement justement d'une famille, comme ça, avec une filiation biologique certaine, même si les parents sont séparés.
Alors pour une sociologue comme vous, c'est une véritable révolution.
Alors c'est d'autant plus une révolution que en 2002, l'autorité parentale, qui est la traduction finalement des droits et devoirs des parents, d'éducation, etc., par rapport aux enfants, l'autorité parentale a été déclarée conjointe même après les séparations et donc a introduit vraiment un concept nouveau qui est celui de coparentalité, à savoir que le père et la mère qui ont fait l'enfant restent parents toute leur vie. Et ça, c'est copié simplement sur le
fait que soit la famille,
la biologie nous montre que c'est vrai. Celui qui a été le père et celle qui a été la mère au moment de la conception reste le père et la mère ad vitam aeternam.
Quoi qu'il arrive.
Et, voilà. Et donc, la famille est en train de pivoter en ce sens que son centre de gravité qui était sur le couple et le mariage est en train de pivoter vers la filiation. Donc vous voyez que les conséquences sont extrêmement importantes.
Merci Evelyne Sullereau. Ces précisions sont tout à fait non seulement importantes mais passionnantes et tout à fait intéressant de vous écouter. Je voudrais annoncer aux auditeurs de Canal Academy que vous publiez très prochainement, en avril 2006, un ouvrage qui aborde ces questions intitulé « La pilule, le sexe et l'ADN, 3 révolutions qui concernent la famille » chez Fayard, aux éditions Fayard. Alors, un petit mot sur le choix de ces 3 mots dans votre titre.
Eh bien, parce qu'il s'agit de 3 révolutions qu'on peut dater. Disons, la pilule, je cherche à savoir qui quel est le public qui a soutenu cela et quels effets cela a entraîné. Alors, il est certain que la contraception, la révolution contraceptive, comme on dit, ce sont les femmes qui l'ont portée avec enthousiasme, et ça a entraîné une diminution de la natalité, une diminution des mariages. Les femmes n'ont plus recherché le mariage, puisque d'autre part, une très vive accélération de leur niveau d'éducation et de leur participation à la vie professionnelle, à toute allure, c'est vraiment une conséquence, si vous voulez. Et juste après la révolution contraceptive, à peu près 3 ans après, est arrivée la révolution sexuelle. C'est le nom que lui a donné des contestataires 68ards qui ont lancé ça à partir de Wilhelm Reich, dont le livre s'appelait « La révolution sexuelle ». Alors, ce sont là les hommes qui l'ont porté, très vite, avec derrière eux les médias et puis surtout ce que je pourrais appeler une industrie du sexe extrêmement prospère et forte. Mais les féministes s'y sont opposées assez rapidement. Et un des effets les plus flagrants de la révolution sexuelle, ça a été une sorte de rivalité entre hommes et femmes, énormément de séparation. Là, on voit se multiplier les ruptures des gens pas mariés et les divorces qui atteignent donc un sommet, puisque 2005 a été une année record de divorce, donc on en est maintenant à un mariage sur deux qui craque, et une multiplication des enfants qui connaissent la séparation de leurs parents avant d'avoir l'âge de 16 ans. Vous voyez que ce sont des effets extrêmement importants.
En effet.
Et donc, quand on analyse justement tous ces effets produits par ces 3 révolutions, la révolution contraceptive, la révolution sexuelle et la révolution génétique, on s'aperçoit qu'il faut encore attendre des changements, mais que les 2 révolutions qui ont une base scientifique, la révolution contraceptive, parce que c'est vraiment l'analyse du processus hormonal qui a permis de découvrir des techniques, et la révolution génétique, sont irréversibles. On va pas retourner en arrière.
Bien sûr
quand
que
on
non.
a découvert des choses comme ça qui sont absolument patentes et des techniques pour agir dessus, il n'y aura pas de retour en arrière. En revanche, pour la révolution sexuelle, je suis incapable de dire ce qu'il en adviendra. Elle a pour l'instant provoqué une chose très curieuse, c'est à la fois donc beaucoup de ruptures comme je vous disais avec les enfants entre 2 parents séparés, mais en même temps davantage de libéralisme de l'opinion qui accepte par exemple l'idée de mariage homosexuel et tout, mais en même temps aussi une demande de l'opinion de punir les crimes sexuels qui devient presque hystérique.
Oui.
On l'a vu avec l'affaire Doutreau. Mais on n'a jamais eu autant de personnes en prison pour des faits sexuels et nous sommes en France champions d'Europe pour à la fois le nombre des personnes emprisonnées pour délits sexuels et pour la peine, puisque la moyenne des peines est de 7 ans de prison. C'est vous dire que cette opinion qui semble favorable à la sexualité, en même temps...
Elle devient très dure, oui.
Oui, je crois qu'elle est à cran.
Voilà.
Et que donc, là, on est dans quelque chose dont je ne peux pas du tout prévoir ce que ça va devenir, parce que c'est une affaire de lobby qui sont très puissants d'un côté,
problème
de bénéfices
société
qui
aussi,
se font,
oui.
etc. Le rôle, par exemple, que joue Internet dans la révolution sexuelle est absolument, c'est une sorte de monde inconnu, mais... Mais
comme
en tout
vous
cas,
dites, ce n'est pas fini alors.
Ce
on
n'est
va
pas
encore
fini,
avoir des évolutions.
Mais il peut y avoir. Enfin, disons qu'on ne peut pas prédire du tout que c'est irréversible. Ça peut, au contraire, il peut y avoir un retour brutal de la pudeur et de demander que cesse cette sorte de révolution individuelle qui ne fait pas attention aux enfants, parce que la révolution sexuelle ne fait pas attention
oui.
aux enfants,
tient
hélas, sauf dans des cas justement extraordinairement criminels.